On pourrait évoquer la situation de la manière suivante. Tout allait très bien. C'était un temps de paix, de luxe. Les cantiques se mêlaient aux chansons sur les hauts lieux où l'on sacrifiait, où l'on faisait la fête, où la fête tournait souvent à l'orgie. Les grands voisins menaçants avaient des difficultés internes qui permettaient au petit peuple alentour de souffler, et le règne du roi Jéroboam II était un règne de grande prospérité économique au cours duquel le luxe fleurissait et les inégalités sociales s'aggravaient. Et tout à coup, déchirant cette heureuse atmosphère, un rugissement qui glace jusqu'à la moelle quelques-uns de ceux qui l'entendent. C'est le rugissement du Seigneur comme un lion justicier. C'est le rugissement que transmet le prophète Amos, qui est la bouche de l'Éternel pour cette génération. De ce prophète rude, très direct dans son message, qui n'a pas froid aux yeux, mais qui en même temps est un orateur très remarquable, qui connaît toutes les techniques de l'éloquence de son temps, nous l'avons vu. Quel a été plus exactement le message? Voilà ce que nous devons essayer de résumer aujourd'hui, et j'espère, l'ayant résumé, laisser assez de temps pour que quelques questions puissent aussi être considérées après l'exposé lui-même. Le livre est composé d'une manière qui n'est pas très stricte, mais qui est quand même claire, qui montre que lorsque le prophète Amos a rassemblé tous les messages que le Seigneur lui avait donnés, il les a mis en un ordre général assez clair. Le livre est bien charpenté, et on retrouve dans le plan lui-même le goût qu'avait Amos pour les nombres. Vous savez, nous en avons parlé la dernière fois, qu'il utilise un peu comme un truc pour éveiller l'attention, pour donner l'impression que ça s'accumule. L'expression « à cause de trois et même de quatre », à cause de trois crimes d'Amon, de Moab, etc., et même de quatre. Et il répète souvent les mêmes formules. Or, dans le plan de son livre, on trouve ce goût des chiffres. Il y a d'abord une section sur les sept nations. Dans les deux premiers chapitres, vous avez sept nations qui vont subir les châtiments que leurs crimes encourent. Sept, chiffre auquel la Bible donne une assez grande place, nous le savons, chiffre de plénitude. On peut aussi remarquer que c'est 5 plus 2, les deux étant Juda et Israël, le peuple de Dieu même, le peuple de l'Alliance de Dieu. Et le chiffre 5 est aussi assez caractéristique du livre d'Amos. Puis ensuite, alors, vient un ensemble de discours assez diversifiés, mais avec la reprise 3 fois de la même introduction, au début du chapitre 3, « Écoutez cette parole que l'Éternel prononce sur vous, Israélites, sur toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. » Puis, au chapitre 4, « Écoutez cette parole, vache de Bazan qui est sur la montagne de Samarie. » Là, j'explique peut-être cette expression, parce que elle peut vous sembler énigmatique, ou alors inutilement choquante. Le Bazan, Bashan, comme il faudrait prononcer vraiment si on suivait l'hébreu, c'est un plateau à l'est du Jourdain, qui est riche et verdoyant, et où paissaient de beaux troupeaux, avec des vaches plantureuses. Une vache du Bashan, c'était comme pour nous une belle Normande. Et le prophète interpelle les belles dames de Samarie, les femmes de l'aristocratie de ce royaume d'Israël, qui s'engraissent aux dépens des pauvres, comme vaches du Bashan. Alors bien sûr, c'est quand même pas un hommage qui leur rend. Le discours qui suit est un discours pour les heurter. Mais il faut quand même savoir que l'allusion peut-être à des formes très généreuses n'était pas en elle-même injurieuse pour le prophète. Parce qu'en Orient, et à l'époque en particulier, l'idéal de la beauté féminine, c'était, je pense, facilement dépasser les 80 kilos. Donc, ce n'est pas le fait de les appeler comme ils les appellent qui serait une critique de leur physique. C'est pas ça. C'est plutôt qu'elles s'engraissent aux dépens des pauvres. Et c'est pour cela que celles qui sont très fières de leur santé, de leur prospérité physique et de leur toilette sont ici dénoncées comme vaches du Bashan. Vous qui opprimez les indigents, qui écrasez les pauvres et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Et puis, au début du chapitre 5, encore, écoutez cette parole, cette complainte que j'entends sur vous, maison d'Israël. Vous voyez donc, c'est très structuré. Vous avez 3, 4, 5, chaque fois, écoutez cette parole. Qui montre que c'est à dessein que le prophète a réuni ses discours, comme il l'a fait lorsque il a constitué le livre. Et puis au chapitre 7, alors, qui prolonge donc ces 5-6 au dernier discours, au chapitre 7 commence une série qui englobe aussi le chapitre 8 avec 5 visions. 3 plus 2. 3 qui forment vraiment un ensemble très, très cohérent. La vision de la plaie de sauterelles, la vision du feu qui dévore le grand abîme, c'est-à-dire la nappe phréatique. Vous voyez, quand c'est une plaie de sécheresse, ici, au verset 4 et suivant. Voici que le Seigneur l'Éternel proclamait le jugement par le feu. Le feu avait dévoré le grand abîme et dévoré le champ. Dans le langage d'aujourd'hui, ça se dirait, la sécheresse sévissait d'une manière tout à fait exceptionnelle depuis de nombreux mois et peut-être plusieurs années, de telle sorte que la nappe phréatique, les eaux souterraines, le grand abîme, ce sont les eaux souterraines, les eaux qui sont en bas. Donc que la nappe phréatique dans laquelle on puise, grâce au puits, était en train de baisser et que la végétation, le champ, la campagne, était complètement roussi, desséché, avec toutes les cultures qui avaient gravement pâti. Ça, c'est la deuxième vision. Puis la troisième, on ne sait pas très bien si ça se traduit quand même comme ça. Il y a des discussions à ce propos entre spécialistes. La vision du niveau. Le niveau de maçon, semble-t-il, qui permet, c'est l'interprétation de la Bible à la Colombe, d'avoir l'horizontale parfaite, comme nos niveaux à bulles. Ce n'est pas à bulles, sans doute, ici. Mais un outil qui permet d'avoir exactement l'horizontale, qui symbolise le jugement qui va tout raser. Les villes qui se dressent avec leurs monuments, tout ça rasé à l'horizontale. Puis, comme il a mis en cause le roi d'Israël, Jéroboam II, il y a le récit qui s'intercale de l'altercation avec le grand prêtre responsable du sanctuaire de Bethel. Nous en avons parlé. Et puis au chapitre 8, nous avons une nouvelle vision qui est celle des fruits mûrs. Il voit une corbeille de fruits mûrs et il symbolise la fin qui approche très vite à la faveur d'un jeu de mots en hébreu. Les fruits mûrs, les fruits d'été, la fin d'été, ça se dit kayitz, et à l'état dit construit, je ne vais pas vous parler de grammaire hébraïque, kayitz devient ketz. Or le mot fin, c'est un autre mot, c'est un homonyme, hein, c'est aussi ketz. Et le Seigneur montre une corbeille qui évoque l'été, ketz, à son prophète, comme symbole que la fin par jugement, est toute proche. Donc vous avez ce symbole de vue en vision, de la corbeille de fruits. Ces jeux de mots que le Seigneur fait ici, assez curieusement, on les retrouve aussi dans les mécanismes de l'inconscient. Dans nos rêves, il y a parfois des jeux de mots comme ça aussi, d'après le spécialiste. Et puis, dans le dernier chapitre, au chapitre 9, nous avons une cinquième vision, qui est celle de l'écroulement de ce temple de Bethel, où Jéroboam Ier avait dressé un jeune taureau, un taurillon, représentant l'Éternel ou la monture de l'Éternel, et où se déroulait donc un culte prétendument offert à l'Éternel, mais que les prophètes dénoncent comme corrompu, idolâtre. Et après ces cinq visions, donc 7, 8 et début de 9, oui, vous avez dans la dernière partie du chapitre 9 un double oracle d'avenir, de restauration par la grâce de Dieu. Donc, double oracle. Si on voulait parler de vision dans un sens un petit peu différent, plus large, plus souple, la vision de l'avenir, on pourrait dire qu'il y a deux visions encore dans cette dernière partie du chapitre 9. La vision de la reconstruction de la hutte écroulée de David, nous allons en reparler, et la vision de la prospérité de la terre promise, ruisselante enfin du lait et du miel, qui est évoquée à son propos. Et alors, si on disait qu'il y a deux visions dans ce double oracle, ça en ferait sept pour la dernière partie du livre. Voilà, vous avez une idée de la structure, du bâti du livre d'Amos. Et maintenant, alors, quant au contenu, que pouvons-nous dire? Pour résumer, bien sûr, hein, nous n'allons pas entrer dans le détail. Je vous annonce les points que je vais développer. Comme ça, vous verrez comment nous progressons. Je pense qu'on pourrait dire, d'abord, que le Dieu d'Amos est le Dieu de la justice et de l'univers. C'est mon premier point. Deuxième point concernera les illusions sécuritaires des Israélites. Et le troisième, l'assurance du relèvement futur et final. Alors, de la justice et de l'univers. Ça pourrait être un nom d'hôtel, vous savez, les hôtels, ils aiment bien s'appeler de l'univers, puis de quelque chose d'autre. Mais je pense que, comme caractère de Dieu, le livre d'Amos nous présente la justice et le pouvoir cosmique, le pouvoir qui s'étend au monde entier, comme les deux traits les plus marquants de celui qui se révèle. Que le livre d'Amos mette l'accent sur la justice de Dieu, cela on l'a très, très fréquemment remarqué, je vous l'ai d'ailleurs dit la dernière fois aussi. Souvent tout le livre se trouve résumé par le verset 24 du chapitre 5. 5:24. Que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Une image magnifique qui suggère que le droit et la justice de Dieu sont comme de l'eau vive, non pas simplement le fléau d'une balance rigide et froide, mais sont une réalité vivante. La justice de Dieu est animée d'un mouvement. La justice de Dieu veut se communiquer, oui, dans le jugement, mais pas seulement dans le jugement. La comparaison avec de l'eau, qui est souvent employée pour l'Esprit de Dieu dans toute la Bible, je crois, nous suggère que le droit et la justice dont Amos est le prophète, parce qu'il s'agit du droit et de la justice de Dieu, sont une réalité du Dieu vivant. Et puis, il me semble qu'il y a l'aspect irrésistible. On sait ce que c'est qu'un torrent. Essayez de barrer la route à un torrent, vous aurez du mal. Dans nos montagnes, on est obligé d'entasser des tonnes et des tonnes, des milliers de tonnes, parfois de béton, pour contenir un torrent. Et encore, il faut quand même lui frayer un passage. Autrement, il finirait par déborder. Un torrent, c'est une image de force en travers de laquelle on ne peut pas se mettre. Et le droit et la justice de Dieu nous sont présentés de cette façon par le prophète, que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Comment préciser le souci de justice qu'il y a dans le livre? Je pense que le premier trait qu'on peut mentionner à propos de ce que le prophète Amos appelle la justice au nom de Dieu, c'est le respect de la personne humaine. Ce qu'il reproche tout spécialement aux riches israélites qui vont être jugés, c'est d'avoir méprisé, foulé aux pieds la personne des pauvres, d'avoir traité les pauvres comme de simples objets, comme de la marchandise. Nous avons en 2, 6 et suivant cette accusation. Ils boivent les calices à vin, ils s'enduisent d'huile vierge. Non, excusez-moi, je regardais au mauvais chapitre. 2, 6, 7. À cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Ils convoitent jusqu'à la poussière de la tête, de la terre qui est sur la tête des indigents. Un mépris de la personne humaine pour de l'argent. Ces gens-là, ces pauvres, devaient une petite somme d'argent, la valeur d'une paire de sandales, mais ils ont été sans pitié. Ils ont vendu comme esclaves ces gens-là pour avoir l'argent correspondant. Nous avons au chapitre 5, verset 11 et suivant, un thème semblable qui revient. Aussi parce que vous avez foulé l'indigent, que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, vous ne les habiterez pas. Et encore au verset 12, vos crimes sont nombreux, vos péchés énormes, vous opprimez le juste, vous le rançonnez. Et 8, 4 et suivant. Écoutez ceci, vous qui engloutissez le pauvre et qui supprimez le malheureux du pays. Verset 6, nous achèterons les indigents pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Donc, premier péché contre la justice, cette manière de traiter des êtres humains créés en image de Dieu, comme s'ils n'étaient que du matériel. Dans les armées, on dit parfois le matériel humain, mais là, il s'agit plutôt de la vie économique et commerciale, avec sans doute la coutume de l'esclavage qui est en arrière-plan. C'est le premier trait. Deuxième trait, sans doute, qui est lié bien sûr au premier, l'appétit du profit, le fait de vivre pour de l'argent. Et dans le passage que je viens de lire au chapitre 8, verset 4 et suivant, le verset 5, que je n'ai pas encore lu, est spécialement intéressant. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions nos denrées? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. C'est surtout la première partie que je veux vous faire remarquer. Mais ces gens-là, ils méritent la médaille du travail. Oh, ils ne veulent même pas prendre leurs vacances, ils sont comme les Japonais aujourd'hui. Ils se plaignent des jours fériés, du sabbat où on ne peut pas travailler, de la nouvelle lune, la fête mensuelle. Ah, ils ont tellement envie de faire leurs affaires, ils sont tellement assidus au travail qu'ils se plaignent. Parce que tout ce qui compte dans la vie pour eux, c'est l'argent qu'ils peuvent gagner. Et le prophète les dénonce de la part de Dieu d'une manière qui peut nous faire réfléchir, nous les modernes, qui avons tendance à partager quand même un peu l'idéologie du travail, le travail fut sa vie. En fait, l'institution même du sabbat, dans la loi de Dieu, dans l'Ancien Testament, était là pour rappeler que l'homme n'est pas fait pour travailler. Et ce n'est pas le but dernier de sa vie. Oui, c'est un but, c'est sûr, mais pas le but dernier. Et le jour final qui couronne la semaine, il est pour que l'homme cesse de travailler et lève les yeux en haut lorsqu'il travaille. Son regard se dirige vers le bas, sur la terre, et il déploie toute son énergie dans le monde. Mais Dieu veut autre chose pour lui. Dieu privilégie le jour où l'homme cesse de travailler. Je crois que c'est très significatif. C'est une des grandes oppositions de la conception biblique du sens de la vie, et puis de la conception qui est courante aujourd'hui dans notre société. Il y a sans doute aussi la dénonciation du luxe. Le luxe, bien sûr, c'est une consommation qui se fait aux dépens de ceux qui n'ont rien. Et il est dénoncé, je ne lis pas les versets, en 3, 12, 15, 6, 4 et suivant. Il semble que le prophète Amos ait le souci d'une certaine égalité, que la justice qu'il défend, puisqu'il dénonce le luxe des puissants, et qu'il parle surtout des pauvres et des indigents, comme ceux dont le Seigneur a pitié, dont le Seigneur prend la cause en main, il semble bien que le prophète Amos lit d'une certaine façon justice et égalité. Alors je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que c'est une question très difficile. Comment définir l'égalité? Il y a bien des façons, les philosophes se sont cassés les dents à ce propos. Si vous donnez exactement la même ration à tous, quand il y a des systèmes de rationnement égalitaire, comme nous en avons connu autrefois, moi je me rappelle ça dans mon enfance, ce n'est pas vraiment juste. Ce n'est pas une véritable égalité, car il y a des gens qui mangent beaucoup, qui ont toujours besoin de manger, et sans quoi ils ont faim, ils se sentent mal. Et puis il y a des gens qui mangent très peu, ça leur suffit parfaitement. Alors la même ration, c'est pas juste. Il y a des gens qui aiment ci, des gens qui aiment ça. Est-ce que la justice consiste à donner à chacun selon ses besoins, consiste à donner à chacun selon son travail, selon son mérite, si on distingue ça du travail? Vous voyez toutes les questions qui se posent. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est de voir comment Dieu s'y est pris dans la loi qu'il a donnée au peuple d'Israël pendant l'Ancien Testament. Je ne crois pas que nous puissions la reprendre telle qu'elle, parce que les conditions ont changé. Nous n'habitons pas un pays du Moyen-Orient avec ressources pour la culture, seulement des ânes et des bœufs. Il y a un autre état des techniques, et tout cela implique que nous ne pouvons pas simplement reproduire le système social que Dieu a choisi comme le meilleur pour le peuple d'Israël autrefois. Mais nous pouvons, je crois, apprendre des choses très intéressantes qui sont vraiment des joyaux de la sagesse de Dieu en étudiant ce que Dieu avait prévu pour Israël et en essayant de transposer, si c'est possible, dans notre situation présente. J'ai été très frappé à propos de cette question d'égalité par une remarque que j'ai lue dans le livre, je dis ça surtout pour les étudiants de la faculté, le livre qui est dans notre bibliothèque à la faculté d'Alan Stokey sur une perspective sociale chrétienne. Il remarque que les secours sociaux que nous avons institués dans nos pays occidentaux distribuent du revenu. Les allocations familiales, le RMI, les remboursements aussi de sécurité sociale, etc. Tout ça, c'est du revenu, de l'argent à consommer, qui est donné à tous ceux qui en ont besoin. Avec des catégories d'ailleurs qui parfois se trouvent dans les lacunes du système et qui souffrent alors beaucoup. Stokey remarque que ce n'est pas le système de l'Ancien Testament. Dans le système de l'Ancien Testament, il y a deux types de mesures qui sont prises pour que les pauvres ne souffrent pas trop. Oui, il y a des mesures qu'on pourrait dire marginales, l'exhortation à l'aumône, la règle comme quoi il faut que le propriétaire d'un champ laisse de quoi glaner, qui ne racle pas tout, qui laisse les pauvres qui iront glaner dans son champ, par exemple. Mais surtout, le grand système de l'Ancien Testament, qui n'a d'ailleurs pas été entièrement respecté par les enfants d'Israël, mais qui est dans la loi, c'est le caractère inaliénable de la propriété foncière. Chaque famille a reçu, au moment de la conquête, sa part du pays. Et elle ne peut pas la perdre. Si, à la suite de malheurs ou de fautes, de paresse ou quoi, elle vend son champ, vend son terrain, elle le récupère après 49 ans, ou l'intervalle, automatiquement. Il y a annulation des dettes et retour du patrimoine. Ce patrimoine est inaliénable. Alors ça a la conséquence qu'il n'y aura pas de trop énormes inégalités. Il y aura des inégalités, il y en a toujours, et Dieu, en quelque sorte, le sait bien. Il y a des inégalités dans le peuple. Il y a des plus pauvres, et c'est pour ça qu'il y a aussi les mesures comme le droit de glaner, qui est là pour atténuer les choses les plus pénibles. Mais il ne pourra pas y avoir des gens qui possèdent tout le pays, 90% une poignée de propriétaires terriens qui possèdent tout, et puis les autres qui ne possèdent rien. Les familles restent toujours avec un outil de travail, un capital pour pouvoir travailler et ainsi vivre. Et la grande différence avec nos systèmes sociaux, c'est que c'est une allocation en quelque sorte en capital, en outil de production, que chaque Israélite possède comme membre de sa famille. S'il veut travailler, il en a le moyen. Oui, c'est ça le point décisif. Il peut prendre ses responsabilités, il n'est pas ligoté par le système. Ça développe la responsabilité, alors que nos systèmes de soutien sociaux modernes développent plutôt l'irresponsabilité. De toute façon, on va recevoir le RMI, les allocations, on peut presque réussir à vivre sans ça. Pourquoi est-ce que je vais accepter un travail qui me rapportera juste un peu plus que je ne touche de toute façon et qui me fatiguera beaucoup et tout, vous voyez ? Il y a des gens qui raisonnent comme ça, c'est sûr. Et cette attitude, donc, d'irresponsabilité, que favorise les systèmes modernes avec tout leur bel idéal de générosité, était évité dans le système que Dieu avait conçu pour Israël. Voyez donc quelques réflexions qui concernent ce sujet de l'égalité. Mais ce n'est pas seulement de la justice que parle le prophète. On n'a pas assez remarqué, sans doute, parce qu'on est tellement frappé par son accent sur la justice, qu'il se soucie aussi beaucoup du culte de l'Éternel. Qu'il y a chez lui une dénonciation extrêmement fréquente, aussi fréquente finalement que celle des crimes sociaux, une dénonciation des péchés d'idolâtrie, d'orgie à l'endroit où le peuple allait faire ses dévotions, sur les hauts lieux, prétendument à l'Éternel, hein, souvent. Parfois il y avait une autre divinité qu'on lui associait. Nous avons au chapitre 2, c'est tout à fait mélangé aux autres accusations chez le prophète. Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales, ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage. Chaque autel a UTEL, l'endroit où on faisait des sacrifices. Donc ces vêtements qu'ils ont pris en gage des pauvres qui étaient complètement coincés, étranglés par leurs dettes, eh bien ces vêtements-là, ils s'en servent de tapis lorsqu'ils vont à leur fête religieuse, auprès des autels où l'on offrait les sacrifices. Vous voyez comment le prophète ici dénonce ce culte perverti. 4 et suivant. Allez à Bethel et péchez, allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices le matin, vos dîmes tous les 3 ans, faites vos sacrifices. Car cela ce que vous aimez, fils d'Israël. Il y a une ironie là de la part de Dieu. Vous tenez à faire tous ces actes de culte qui vous coûtent cher. Très bien, très bien, moi ça ne me touche pas. C'est ça ce que vous aimez. Mais c'est un péché quand même. Allez à Bethel et péchez. Bethel, c'est cet endroit où se trouvait la statue du veau, du taurillon, censé représenter l'Éternel. Gilgal, c'était un autre sanctuaire où le culte de l'Éternel était mélangé de paganisme. 5:21 et suivant. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos cérémonies. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Vos sacrifices de communion et les veaux gras, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. C'est dans un passage où il dénonce ce culte ronflant avec de très beaux cantiques, il y avait de la musique, il y avait tout, des sacrifices très riches, où il dénonce donc ce culte que se trouve la parole sur la justice. Et encore 8:14 qui évoque à nouveau, excusez-moi, je cherche le verset, qui évoque à nouveau le culte perverti, eux qui jurent par le sacrilège de Samarie et qui disent « Vive ton Dieu Dan, vive le rite de Beersheba, ils tomberont et ne se relèveront plus. » Alors il me semble très intéressant de relever cette association de la justice, justice sociale en particulier, et du culte, de ce qu'on pourrait appeler la religion. C'est un trait qui caractérise le message biblique. Dans les peuples païens, alentour, on peut dire que le domaine de la morale et de la morale sociale, celui de la justice donc, si vous voulez, est le domaine de la religion, du culte qu'on offre à Dieu pour s'attirer ses bonnes grâces, ces deux domaines sont presque entièrement séparés. Il y a peut-être quelques chevauchements, mais en gros, ce sont deux domaines distincts. Il y a les règles de la morale pour vivre en commun sur la terre, et puis il y a les dieux et leurs caprices. Alors les dieux, ils ne se soucient finalement pas tellement de ces questions de justice entre les hommes. Ce qu'ils veulent, c'est de beaux sacrifices, ce qu'ils veulent, c'est de belles litanies. Et c'est le propre de la vision biblique de faire, en quelque sorte, se superposer, d'unir étroitement le religieux et le moral, le juste, si vous voulez. Ça me paraît quelque chose de très important et de significatif. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas à 100%. Pas à 100%. Il y a un aspect du culte qui ne semble pas avoir un caractère moral, c'est des rites. On ne voit pas pourquoi, on ne voit pas le rapport à la justice. Mais justement, c'est cela qui n'était que provisoire, qui était un asservissement aux éléments du monde, comme dit l'apôtre Paul, dans l'Ancien Testament, qui était là à titre de pédagogie divine, et qui cesse avec le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de rite qui est une valeur en soi, indépendamment de l'obéissance à la justice de Dieu. C'est le christianisme du Nouveau Testament qui seul me semble faire vraiment une seule réalité de l'aspect religieux et de l'aspect moral juste. Et c'est d'autant plus intéressant à observer que le christianisme historique n'a même pas été capable de se maintenir que précisément avec le sacramentalisme, avec tous les rites surchargés qui sont venus en fait du paganisme, des païens. Au bout de 2-3 siècles, l'Église chrétienne s'est retrouvée à la manière des religions païennes avec tout un domaine religieux qui n'avait plus grand-chose à voir avec la justice. Et il a fallu la réforme, la réformation, pour qu'on retrouve cette équivalence radicale du culte rendu à Dieu et du respect de la justice, du respect du commandement de Dieu, qui est au bout du compte le commandement d'amour d'ailleurs. Justice et amour ne se séparent pas dans la perspective biblique. Vous voyez comme c'est intéressant. Et alors tout cela me semble lié au deuxième grand trait du Dieu qui se révèle dans le livre d'Amos. L'époque fut marquée par le tremblement de terre et par l'éclipse de 763 avant Jésus-Christ, comme je vous l'ai dit. Et nous voyons que dans le livre d'Amos tout entier, le pouvoir du Seigneur qui s'est révélé par ces événements bouleversants et qui ont bouleversé le cosmos, le pouvoir du Seigneur sur l'univers est un thème qui revient très fréquemment. Nous en avons déjà un peu parlé la première fois, mais je vous souligne encore plusieurs des passages qui célèbrent cette puissance de l'Éternel sur le monde entier, sur tous les phénomènes. Vous avez 4:13. Voici celui qui forme les montagnes et crée le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Vous voyez ce passage qui évoque la toute-puissance dans l'univers entier du Seigneur. Deuxième texte que nous pouvons relever, 5:8. Il a fait les Pléiades et Orion, les grandes constellations. Il change l'ombre de la mort en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Et encore, peut-être les versets 9-6. Peut-être lu 9, 5 et 6, en fait. Le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre et elle s'effondre. Tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le Nil, elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Un mot à ce propos sur l'expression « l'Éternel des armées » qui est utilisée dans la traduction de la Bible à la Colombe et qui souvent est l'objet de malentendus. Parfois aussi on ne la traduit pas et ce devient Yahweh Tsevaot ou Adonai Tsevaot. Certaines traductions récentes choisissent plutôt le maître de l'univers ou le dieu de l'univers. Je crois que la Bible en français courant dit le dieu de l'univers. Il ne faudrait pas croire, parce que ce n'est en tout cas pas le sens premier et le sens habituel, que les armées, dans l'Éternel des armées, ce sont les armées d'Israël, les troupes avec leurs lances et leurs arcs, etc., comme parfois les gens l'imaginent. Il y a bien des gens qui croient que l'Éternel des armées, ça veut dire un dieu guerrier, qui est là comme le dieu des ceinturons des troupes allemandes lors de la dernière guerre, Gott mit uns, Dieu avec nous, un dieu qui est là simplement pour soutenir le combat des troupes. C'est pas ça du tout. Les armées dont il est question, en fait, ce sont soit les armées des anges, souvent elles sont appelées les armées célestes, soit les armées des astres. Et dans l'expression « l'Éternel des armées », c'est sans doute le plus souvent de tous les astres, de la multitude des étoiles qu'il est question. Il est le Seigneur de l'univers. Voilà ce que veut dire la formule. Donc le Seigneur apparaît comme le Dieu de la justice, et on ne peut pas séparer entre la justice et le culte de ce Dieu-là, parce qu'il est le Dieu de justice. Et d'autre part, le Dieu de l'univers. Alors, on pourrait se dire, mais ça ne va pas forcément ensemble, ça ne va pas tellement bien ensemble même. Plus c'est le Dieu de l'univers, celui qui domine la multitude des étoiles, moins il doit s'intéresser aux questions de la justice, aux balances qui sont un petit peu faussées, des marchands plus scrupuleux, nous avons lu ça il y a un instant, au chapitre 8. Plus il apparaît comme le Dieu de l'univers, moins, logiquement, il devrait être le Dieu de la morale dans la vie de tous les jours. Ben, c'est le contraire que la Bible nous révèle ici. Et si nous réfléchissons, nous allons comprendre pourquoi, malgré notre impression au premier abord, c'est le contraire, en effet, qui est vrai. C'est parce qu'il est le Dieu de l'univers qu'il est aussi le Dieu qui s'intéresse à la justice dans les relations humaines et dans les relations avec lui. Pour le comprendre, il faut simplement se rappeler comment les idoles sont fabriquées. Comment les faux dieux sont constitués. Chez les païens, je vous l'ai dit, il y a le culte, la religion d'un côté, la justice de l'autre, et très peu d'interférences. Pourquoi? Parce que les dieux, qui sont honorés dans la religion des païens, sont des idoles, c'est-à-dire sont des morceaux de monde qu'on appelle Dieu, qu'on divinise. Une idole, c'est toujours un morceau de monde, un aspect de la réalité. Par exemple, la pure force physique qui se déchaîne dans l'orage, c'est un aspect ou un élément de monde qui est divinisé, dont on dit c'est lui le premier et le dernier. Comme c'est un morceau de monde, seulement, si vous dites c'est lui qui est le Dieu, c'est ça ce qui est sacré, vous avez une autre partie du monde, le reste en quelque sorte, qui va s'opposer à lui, qui n'est pas sacré. Et du coup, le culte va impliquer une division entre divers morceaux de monde. Il y a ce qui est profane, vulgaire, souillé, et puis il y a ce qui est saint, ce qui touche le divin. Mais c'est des morceaux de monde, donc c'est pas moral. Vous ne pouvez pas poser la question du bien et du mal. C'est un morceau de la réalité qui est considéré comme souillé, l'autre morceau qui est considéré comme divin. C'est parce qu'on a pris un morceau de la réalité pour le diviniser qu'on dévalue et qu'on considère comme impur l'autre morceau. Toutes les religions païennes ont séparé parmi les créatures dans l'univers du pur et de l'impur, du saint divin et puis ce qui ne l'était pas. Mais ça, tout à fait indépendamment des questions de justice, ça n'avait rien à voir. Et c'est pourquoi les religions païennes ne se soucient beaucoup de pureté et d'impureté selon cette division, mais ne se soucient pas de justice. Seul le Dieu de la Bible, parce qu'il est le Dieu de l'univers, qui n'est pas un morceau d'univers, mais qu'il est au-dessus, qu'il embrasse tout, peut dire, mais toutes les créatures sont bonnes. Oui. Il n'y a aucune créature qui soit impure en elle-même. Tout ce que Dieu a créé est bon, et peut être reçu avec action de grâce. Oui. Puisque tout vient d'un Dieu qui est au-dessus, qui n'est pas une part de l'univers. Et du coup, alors, ce qui devient maintenant important pour le rapport à Dieu, c'est d'obéir à sa volonté. C'est une conduite qui est en rapport avec son propre caractère à lui, c'est-à-dire la question de la justice. Vous voyez comment se lient en fait les deux traits du Dieu qui se révèle chez Amos, le pouvoir cosmique, l'éternel des armées, et le souci de la justice, que la justice roule comme un torrent intarissable. Alors à partir de là, je vais aller plus vite, le prophète dénonce au nom de Dieu les illusions sécuritaires. Si le Dieu de justice est aussi le Dieu de l'univers, le Tout-Puissant, cela veut dire que ceux qui transgressent la justice ne peuvent plus se faire d'illusions quant aux remparts et aux protections qu'ils se sont érigés. Et le prophète dénonce, au moins, me semble-t-il, trois types de sécurité que les Israélites croyaient avoir pu édifier pour se garer du malheur en son temps. D'abord, les sécurités matérielles. Ils ont accumulé de l'argent, ils ont leur maison d'été, leur maison d'hiver, des belles maisons en pierre de taille. Mais tout ça, le Seigneur, dans le tremblement de terre, le fait s'écrouler. Oui. Toute leur sécurité de compte en banque et de belles maisons, tout ça va s'écrouler. C'est spécialement au chapitre 6, dans les premiers versets, que le prophète dénonce la vanité de ces sécurités matérielles. Donc, premier type de sécurité qui est complètement renversé par la vision du Dieu de l'univers, Dieu de justice, la sécurité matérielle. Ensuite, la sécurité religieuse. Eh oui, parce qu'ils étaient religieux, comme je vous l'ai dit. Ils offraient des sacrifices, ils chantaient des cantiques, ils se réunissaient sur les hauts lieux, autour des autels qu'ils avaient construits, et le Seigneur leur dit que ça ne les garantira en aucune façon au jour de ces jugements. Au contraire, que ces fêtes et et toutes ces liturgies solennelles qu'il présente, tout cela, ça le dégoûte. Il en a, en quelque sorte, la nausée. Alors, nous avons déjà lu un passage où le Seigneur le dit. Et je signale qu'il y a un texte sur lequel je ne m'arrête pas maintenant longuement, mais un texte un peu difficile, au chapitre 5, les versets 25 et suivants. Avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Alors, littéralement, là, je critique la traduction de la colombe. Vous avez porté Sikout, votre roi, Kiyun, vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriquée, et je vous déporterai au-delà de Damas, dit celui dont le nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Si vous lisez les notes dans plusieurs des Bibles publiées, je crois que ce n'est pas très satisfaisant. Il faut voir, parce que ça c'est dans la Bible même, l'interprétation que donne de ce passage Étienne, en acte 7. Ces versets sont cités par Étienne en acte 7, et il les cite comme la preuve que dès le temps du désert, les Israélites se sont montrés idolâtres. Alors je crois que nous avons à suivre l'interprétation d'Étienne plutôt que l'interprétation de savants exégètes de notre temps qui disent c'est pas ça. Vous savez des gens qui disent c'est pas ça, mais je crois qu'on doit et qu'on peut tout à fait suivre l'interprétation d'Étienne. Quand Dieu dit « M'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert ?» Ce qu'il veut dire, c'est « Est-ce que c'était vraiment à moi ?» Vous avez offert des sacrifices et des offrandes pendant le temps du désert, c'est bien clair dans le livre de l'Exode et des Nombres, mais ce n'était pas vraiment à moi. Votre cœur était déjà enclin à l'idolâtrie, et sous mon nom, c'était d'autres. Et vous étiez déjà en train de loucher vers ces dieux païens, Sikout, Kiyoun. Le nom est changé dans la citation d'Étienne, mais en fait, c'est toujours le même dieu. C'est des noms différents. Ramphan, qui est utilisé par Étienne, c'est le nom égyptien du même dieu, qui s'appelait aussi Sikout et Kiyoun, selon les peuples. C'est toujours des divinités qui représentent la planète Saturne. Ça, on a pu le reconstituer. Donc, vous voyez, quand Étienne cite ce passage, il ne trahit pas du tout le sens, même si nous sommes surpris comme ça, première vue, par les différences. En fait, il s'agit de cette même divinité idole, Saturne, et ce que dénonce le prophète, c'est que dès le temps du désert, le peuple d'Israël s'est montré enclin à l'idolâtrie et en train de loucher déjà vers d'autres dieux que le vrai Dieu lorsqu'il offrait son culte. Voilà comment je crois qu'il faut comprendre. Donc, deuxième type de sécurité dénoncée, la sécurité religieuse. Troisième sécurité dénoncée, la sécurité de l'élection divine. Certains des compatriotes d'Amos disaient « Nous sommes le peuple élu, nous sommes le peuple élu, donc finalement rien de très grave ne peut nous arriver. Dieu nous a choisis, et bon, alors c'est une garantie pour nous. » Et le prophète dénonce cela au chapitre 3. « Je vous ai choisi, verset 2, je vous ai choisi, vous seul parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous demanderai compte de tous vos errements. » Et encore au chapitre 9, verset 7, « N'êtes-vous pas pour moi comme des fils des Éthiopiens, fils d'Israël ? Oracle de l'Éternel, n'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir ? Voici que le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable, je le détruirai de la surface de la terre. » Les Israélites croyaient que le privilège d'être le peuple de Dieu les mettait totalement à part et faisait qu'ils ne risquaient rien. Et le prophète leur dit, pas de ça, en fait ça vous rend d'autant plus responsable et Dieu exercera ses jugements de justice à votre égard aussi bien et peut-être encore plus. Et d'autre part, ne croyez pas que je ne m'occupe pas des autres peuples. Ne croyez pas que l'élection d'Israël signifie que les autres nations alors passent complètement à l'as aux yeux de Dieu. C'est moi aussi qui m'occupe des pérégridations de ces peuples, des mouvements de l'histoire qui les affectent. Et en un sens, vous êtes au même rang que les fils des Éthiopiens. Vous voyez comment le prophète parle à ses concitoyens. Et je crois que même si notre élection est différente de celle d'Israël, c'était une élection nationale selon la chair, alors que pour nous c'est une élection individuelle en Christ, nous ne devons quand même pas non plus faire de notre élection comme une garantie qui nous permettrait de faire ce qui nous plairait sans considérer la volonté de Dieu. Le principe que l'élection divine accroît la responsabilité, il vaut pour nous aussi. Et Dieu saura bien aussi demander compte à ses élus de la Nouvelle Alliance de leur conduite s'ils s'écartent du chemin qu'il leur trace. Voilà en ce qui concerne ces sécurités éliminées. L'élection signifie quand même que le peuple ne peut pas entièrement disparaître. Ce n'est pas une sécurité pour les rebelles, mais le verset 9 au chapitre 9 ajoute « Toutefois, je n'irai pas jusqu'à détruire totalement la maison de Jacob. Je vais secouer la maison d'Israël par toutes les nations comme on est secoué par le crible, sans qu'il en tombe à terre une seule parcelle. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. » Le dessein de Dieu, justement parce qu'il est le Dieu de l'univers, ne sera pas frustré par la désobéissance même des siens. Il ne va pas avorter. Dieu va faire en sorte qu'il aboutisse, qu'il y ait un reste fidèle qui demeure, même s'il est obligé de châtier les pécheurs du peuple. Et cela, alors, c'est la base pour la troisième partie du message d'Amos, la partie sur la restauration future, qui est indiquée au chapitre 9, versets 11 et suivants. Alors, il y a là deux éléments que je résume très, très brièvement. Il y a d'abord une promesse de restauration de ce que le texte appelle la hutte croulante ou écroulée même de David, dont Dieu dit « J'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines et je la rebâtirai comme si elle était, comme elle était autrefois. » Vous savez que l'expression « la maison de David » intervient très souvent dans la Bible, et en particulier en 2 Samuel 7, lorsque David dit « Je vais construire une maison pour l'Éternel », l'Éternel lui répond « C'est moi qui te construirai une maison ». Et ça veut dire sa famille. Le mot « maison » dans la Bible veut très souvent dire « famille ». Alors ici, je crois que la hutte, la petite maison, la cabane, c'est non pas la ville, comme dit le français courant, ça c'est très dommage, mais la famille de David, la lignée davidique. Amos annonce que la famille de David, affaiblie, croulante, écroulée, sera restaurée, sera relevée dans la suite des temps. Tel est le dessein de Dieu qui l'accomplira. Alors quand est-ce que ça s'est produit? Bon, l'écroulement de la dynastie de David, c'est assez évident. Il y a eu des rois, la plupart de moins en moins satisfaisants, fils de David sur le trône à Jérusalem après le temps d'Amos. Il y a eu Akaz, et puis il y en a eu d'autres. La maison de David est descendue de plus en plus, et puis elle a fini par perdre la royauté. Il y a eu plusieurs siècles où ses descendants ont été des gens obscurs dans le peuple, comme une cabane écroulée. Et puis est venu celui qui devait venir. Est venu le fils de David attendu, qui a reçu la royauté, qui est entré dans son règne et qui a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Lorsque l'ange est venu l'annoncer à Marie, elle a dit qu'il siégerait sur le trône de David, son père. C'est le Seigneur Jésus. Il est remarquable que les Juifs avaient compris, ils n'en ont pas fait grand-chose malheureusement, mais ils avaient compris que cette prophétie impliquait que le Messie viendrait après un temps de décadence. Dans le traité Sanhédrin du Talmud, vous avez le titre même de fils de la décadence attribué au Messie. Mais il ne voit pas que ça s'est accompli de façon tout à fait remarquable et précise en Jésus. Et alors, comme confirmation que tel est bien le sens, je n'ai pas le temps de l'exposer maintenant, mais relisez acte 15, et vous verrez que lors de la conférence de Jérusalem, Jacques, le frère du Seigneur, a cité ce passage pour régler une question de la vie de l'Église, montrant que pour lui, cela s'était accompli par la venue de Jésus-Christ. Aussi, dans les versets qui suivent, qui montrent une extension aux autres nations. Les autres nations sont englobées dans le royaume du fils de David. Et puis, le deuxième oracle de cette fin d'Amos annonce que la terre promise, après tous les ravages qu'elle aura subis, et les fléaux, la sécheresse et tout, que la terre promise sera vraiment conforme à l'espérance, que Dieu la restaurera en plénitude, Éden retrouvé, ce qui peut se prendre d'une manière symbolique et être considéré comme accompli dès maintenant par l'effusion du Saint-Esprit qui nous donne de porter du fruit, mais qui sans doute aura aussi un accomplissement littéral, extérieur, dans la nouvelle terre que nous attendons, car le Seigneur accomplira toutes ses promesses. Voilà donc une présentation du message d'Amos. Il reste 2-3 minutes pour des questions, en tout cas. Vous n'en avez pas du tout. Alors je peux simplement indiquer que, Dieu voulant, au mois de juin, lors de l'Institut biblique du mois de juin, je continuerai avec un autre prophète qui a été contemporain d'Amos, un peu plus jeune sans doute, Osée. Donc, au mois de juin, je voudrais traiter de la question délicate qui correspond à ce qu'on lit dans les premiers chapitres d'Osée sur le mariage avec une prostituée. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre ça? C'est tout spécialement cette question que je compte traiter lors de l'Institut biblique du mois de juin. Oui, madame? Chapitre 8, verset 12. Donc la question porte sur cette parole de jugement qu'on trouve en 8, 12 et 13. Ceux qui se sont complus au culte corrompu dont nous avons parlé, Dieu annonce qu'ils seront comme affamés de paroles de Dieu, qu'ils titubront, défailleront et ne trouveront pas de paroles de Dieu. Alors comment comprendre cela? Est-ce que c'est réservé à cette époque ou est-ce que nous avons une application aujourd'hui? Ma réponse n'est pas une réponse infaillible, mais je vous donne celle que je crois juste. Je pense que dans le cadre de l'époque d'Amos, ça veut dire d'abord qu'il n'y aura pas de nouvelles paroles de Dieu, de prophètes qu'ils pourront écouter. Comme ils auront refusé d'écouter l'Éternel, qu'ils auront mélangé son culte à celui des idoles, alors lorsqu'ils seront dans le désarroi, qu'ils chercheront où aller à gauche à droite, ils ne trouveront pas. Ils seront punis par ce silence de Dieu. Il me semble que c'est le sens premier pour l'époque. Mais je pense qu'il y a un sens, selon l'analogie, qui vaut aussi aujourd'hui. Je pense qu'on peut dire que lorsque quelqu'un s'endurcit, refuse d'écouter Dieu, profane son nom, se sert, exploite les choses de Dieu, alors Dieu peut le punir par une sorte de silence. Il ne lui répond pas. Cet homme est rendu comme insensible, aveugle aux choses de Dieu, il ne les comprend pas et donc il ne reçoit pas la nourriture et le breuvage spirituel qui lui donnerait la vie. Je crois que c'est un avertissement solennel. Aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que si on s'endurcit, il se peut qu'on ne puisse plus entendre la voix de Dieu. Voilà comment je prends cette parole qui est très solennelle. Pas d'autres questions? Si, monsieur.
J'aimerais savoir comment vous comprenez le début du verset 14 en disant « Je ramènerai le captif de mon peuple Israël ». Chapitre 9, verset 14.
Oui. Alors, je pense que cette formule est une formule qui revient assez souvent, je ramènerai la captivité, qui n'est pas forcément à prendre de façon littérale. Je vérifie dans l'hébreu que j'ai, c'est le verset 14, donc, si c'est l'expression « shavshavut », oui c'est ça, c'est bien celle-là. Elle peut signifier simplement « je restaurerai ». C'est l'expression qui est employée à la fin du livre de Job. Il est dit que Dieu a restauré Job, or littéralement c'est il ramena la captivité de Job. Oui. La même formule que celle qui est employée ici. Donc c'est une expression toute faite qui est là pour dire je restaurerai, je renverserai la destinée. Après le temps des jugements viendra le temps de la prospérité, de la paix, de la réconciliation. Donc ça c'est pour l'expression même, je ramènerai les captifs. Elle n'est pas forcément à prendre de façon littérale. Deuxième point, alors, d'Israël. Ça c'est une grande question qui touche à toute interprétation prophétique. Alors, je n'entre pas dans son détail. Simplement je crois qu'on peut dire qu'au moins dans beaucoup de prophéties, le Nouveau Testament nous enseigne à dire « Nous sommes l'Israël de Dieu ». Les héritiers des promesses ce sont ceux qui sont dans l'olivier Israël. Nous avons été greffés par la foi dans l'olivier Israël. Les Israélites selon la chair qui refusent Jésus-Christ sont des branches coupées par rapport à cet olivier Israël. Et les promesses sont pour l'olivier Israël de Romains 11. Mais c'est une question complexe. Je donne une réponse ultra simple et sans doute trompeuse par brièveté. Il faudra peut-être reprendre cela une autre fois. Merci, donc, je crois que l'heure est maintenant arrivée. Il va y avoir le groupe Palmier et le repas Agapé.
Oui. Alors, j'avais donné des livres d'Alain Chouinquet à Saint-Chemin, j'en ai donné beaucoup. Malheureusement, les gens se convertissent pas, je dis ça.
Ah, c'est souvent dingue.